Bonjour, chers frères. Je suis heureux de vous voir tous aujourd'hui. Quand j'étais jeune, nous vivions dans la campagne de l'Illinois, au sud de Chicago, et donc chaque fois que nous avions besoin d'aller faire des courses ou quelque chose comme cela, nous devions aller à au moins 30 minutes, 40 minutes dans une ville appelée Kankakee, qui était une banlieue de Chicago. Et nous faisions ces voyages et c'était l'été et c'était un bon souvenir, nous allions là-bas et nous achetions mon fruit préféré, les pêches. C'était amusant, car pour choisir une pêche, nous allions soit au supermarché, soit dans un marché de producteurs, et les pêches étaient parmi les meilleures que l'on puisse trouver. Je suis sûr qu'il y a des gens en Géorgie qui ne seraient pas d'accord. Cependant, c'était dans l'Illinois, alors nous les avons peut-être reçues de vous, mais elles étaient parmi les meilleures pêches que l'on puisse trouver. Lorsque ma mère les choisissait, elle choisissait celles qui étaient plus roses que jaunes. On les attrapait et elles cédaient un peu sous la pression et on savait qu'elles allaient être juteuses. Ça va être bon. Nous les attrapions et nous rentrions à la maison. Elle les lavait et les préparait et elle m'en donnait un que je voyais et sentais. Je le fais encore aujourd'hui, puis je prenais une bouchée. J'étais aux anges, le jus était juste haut. Laisse-moi prendre cela. C'était merveilleux, et puis il se passait quelque chose qui ressemblait à une égratignure de disque, et cela gâchait un peu le moment pour moi. Ma mère, elle, aimait les pêches un peu plus dures. Elle pouvait apprécier celles qui étaient juteuses, mais elle les aimait un peu plus dures. Mais elle les prenait, je mangeais et je descendais, elle enlevait un petit morceau du fruit, puis elle prenait le sel et le mettait sur la pêche et je regardais. C'est dégoûtant et je me dis, Maman, qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas du sucre, c'est du sel. Elle me dit, Oui, je sais. Je ne sais même pas quoi faire. C'était tellement dégoûtant pour moi et au bout d'un moment, elle s'est mise à aimer cela parce qu'elle savait que cela me dégoûtait. Elle le prenait et le mettait, je la regardais du coin de l'œil, elle le mordait et me regardait en disant, C'est si bon. C'est vrai. C'est tellement bon. Je suis comme, Ok. Ma mère adore le sel. Il y a des gens qui adorent le sel. Ils mettent du sel sur tout. Elle en mettait sur tout. On peut dire qu'elle aimait la nourriture avec son sel. Elle en mettait sur la pastèque. Elle en mettait sur tout un tas de choses différentes. En grandissant, j'ai éprouvé des sentiments ambivalents à l'égard du sel. D'un côté, je regardais cela me dégoûtait. Je comprenais que le sel était nécessaire pour parfumer les plats et d'autres choses de ce genre, mais je voyais cela me dégoûtait. Elle achetait délibérément. Elle a juste, je pense, vous savez quoi? Elle s'est vraiment amusée avec cela parce qu'elle sortait et achetait des chips. Elle savait que nous aimions les chips nature. Elle prenait du vinaigre et du sel. C'était dégoûtant pour moi. Je n'essaie pas d'offenser qui que ce soit. C'est juste moi. Je n'aime pas cela. Ensuite, je jouais au basket où je faisais de l'exercice et la sueur descendait sur le front, entrait dans les yeux et les brûlait, et il y avait du sel là-dedans, comme dans l'océan, qui brûlait les yeux. Je me suis dit, Tu veux du sel? Non, cela va. Pas de sel. Je n'appréciais pas suffisamment le sel minéral. Puis j'ai été appelé et j'ai vu cette écriture. Passer au chapitre 5 du livre de Matthieu. Tout le monde connaît probablement ce passage. C'est un passage à mémoriser. Matthieu, chapitre 5. Matthieu 5, 13 dit, Vous êtes le sel de la terre, et nous lirons le reste. Mais si le sel a perdu sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon à rien, sinon à être jeté dehors, et à être foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. J'ai vu cela et j'ai pensé, quoi? Pourquoi Dieu nous comparerait-il au sel de n'importe quoi? Vous savez déjà que le sel me répugne un peu. Pourquoi ne dirait-il pas que vous êtes les pêches de la terre? Douces et juteuses, non, je plaisante. Mais je ne comprends pas le sel, et j'ai donc décidé de faire une étude sur le sel. Il faut que je trouve ce qu'il y a de si génial dans le sel, parce que je ne le vois pas. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le sel a perdu un peu de son éclat. Avant l'ère moderne, le sel était très important. Le sel était extrêmement important. Il avait une grande valeur. C'est une valeur que je ne pense pas pouvoir apprécier à sa juste valeur, à moins de l'étudier. Aujourd'hui, nous allons examiner ce qui fait la valeur du sel et pourquoi Dieu a utilisé ce minéral pour nous comparer à lui. Je vais maintenant parler de ce qui fait la valeur du sel, pourquoi il est si précieux, mais d'abord, prouvons qu'il est précieux, qu'il était si précieux. Dans l'Antiquité, le sel était extrêmement cher. Aujourd'hui, il est facilement accessible, on peut en trouver partout, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Il était difficile d'extraire le sel. C'était très difficile. Par conséquent, il n'y en avait pas beaucoup en circulation. On se rendait sur les routes commerciales et si l'on voulait du sel, une once d'or équivalait à une once de sel. C'est dire la valeur du sel à l'époque. Qu'est-ce que cela signifie exactement? En dollars américains d'aujourd'hui, une once de sel vaudrait environ, non, une once d'or vaudrait environ 2000 dollars. C'est le prix d'une once de charbon. Une once de sel représente environ 5 cuillères à café. Vous payeriez 2000 dollars pour 5 cuillères à café de sel. C'est dire la valeur du sel. Les soldats romains recevaient du sel en guise de salaire. Ils recevaient du sel en guise de salaire. Le mot « salaire » signifie en fait « sel ». Il vient du mot « sel ». Si vous dites « combien gagnez-vous comme salaire ?», vous demandez combien de sel vous recevez. Ils ne l'ont jamais changé, mais c'était si important. Les esclaves, je crois que les esclaves grecs étaient échangés et que le sel était donné à la personne qui échangeait son esclave. Combien d'entre vous ont entendu le dicton « vaut-il son sel ?» ou « cette personne vaut-elle son sel ?» ou « cette personne vaut-elle son sel ?» C'est de là que vient cette expression. Aujourd'hui, on dit « avez-vous de la valeur ? » « apportez-vous de la valeur ? » « avez-vous de la valeur ? » « êtes-vous un travailleur acharné ?» Voilà ce que cela signifie. Autrefois, dans les temps anciens, le sel était la monnaie dans certaines sociétés. C'est ce qu'on utilisait comme monnaie. En fait, à un moment donné, il était plus important que l'or. Lorsque nous y reviendrons, nous comprendrons pourquoi il était plus important que l'or. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La plupart du temps, nous utilisons le sel comme assaisonnement. Lorsque la neige tombe et qu'il y a de la glace sur la route, le sel permet de sceller la route, de dissoudre la glace et d'autres choses de ce genre. Qu'est-ce qui rend le sel si précieux? Pourquoi est-il précieux? L'une des raisons pour lesquelles le sel est si précieux, c'est qu'il est pur. C'est la pureté du sel. Les germes ne peuvent pas vivre dans le sel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu mal aux dents et si vous êtes allé sur Internet pour vous demander « Pourquoi ai-je mal aux dents ?» L'une des premières choses qu'ils vous diront, c'est « Allez chercher du sel de mer, mettez-le dans de l'eau tiède et faites-le circuler dans votre bouche. » Il vous dira ensuite « Continuez à faire cela jusqu'à ce que la douleur disparaisse, essentiellement parce que cela tue les germes, les mauvaises bactéries qui se sont introduites dans la dent et qui l'infectent. » Ils vous disent simplement « Continuez jusqu'à ce que la douleur disparaisse. » C'est dire à quel point le sel est puissant. Passer à Deuxième Roi, chapitre 2. Deuxième Roi, chapitre 2, verset 19. Nous commencerons au verset 19. Deuxième Roi, chapitre 2, verset 19. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, je te prie, la situation de cette ville est agréable, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau ne l'est pas, et le sol est stérile. » Le mot « n'est pas » signifie essentiellement qu'il est mauvais. C'est un poison. Ce n'est pas bon. On ne peut pas boire l'eau. Il dit, « Apportez-moi une nouvelle cruche, et mettez-y du sel. » On la lui apporta. Il alla à la source des eaux, y jeta le sel, et dit, « Ainsi parle l'Éternel, j'ai guéri ces eaux. Il n'y aura plus de mort ni de terre stérile à partir de là. » Et les eaux ont été guéries jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Est-ce que Dieu a guéri l'eau et que c'était symbolique? Le sel a-t-il réellement guéri l'eau? Ce que nous savons, c'est qu'il leur a dit de le faire et qu'il a mis le sel dans l'eau et qu'après cela, l'eau était potable parce que le sel purifie. Il ne peut pas coexister avec des germes. Il ne peut pas coexister avec de mauvaises bactéries ou quoi que ce soit de ce genre. Il est pur en soi. S'il n'est pas pur, le sel impur n'existe pas. Parfois, les gens disent, le sel n'est pas tout à fait pur. Cela n'existe pas. S'il n'est pas pur, ce n'est pas du sel. Il a changé de forme. Ce n'est plus du sel s'il n'est pas pur. Comme le sel qui ne peut contenir d'impureté, le péché ne peut demeurer en nous. C'est la corrélation. En tant que sel de la terre, nous devons également être purs. Or, il y a beaucoup de choses différentes qui peuvent nous rendre impurs. Reportez-vous au chapitre 7 de l'évangile de Marc. Marc chapitre 7 et nous allons commencer au verset 14. Marc, chapitre 7, verset 14. Le contexte est le suivant. Les pharisiens ont remarqué que Christ et ses disciples ne se lavaient pas les mains avant de manger, et c'est donc Christ qui répond à cette remarque. Il est dit, « Ayant appelé tout le peuple auprès de lui, il leur dit, « Écoutez-moi, chacun de vous, et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le souiller en entrant en lui. Mais ce qui sort de lui, voilà ce qui souille l'homme. » Ses disciples n'ont pas compris et ont demandé, « Dites-nous ce que cela signifie » verset 17. Et au verset 18, il a dit, « Êtes-vous aussi dépourvus d'intelligence ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui vient du dehors ou de l'extérieur et qui pénètre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et que cela sort dans le courant d'air, en purifiant toutes les viandes ?» Et il dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est ce qui rend l'homme impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, les tromperies, les lascivités, le mauvais œil, les blasphèmes, l'orgueil, la sottise. Tous ces maux viennent de l'intérieur et souillent l'homme. Il s'agit en fait d'une courte liste des choses que nous devons purifier de nous-mêmes pour être purs. Il ne s'agit pas de choses que nous absorbons, évidemment, mais de la manière dont nous pensons, de la manière dont nous nous permettons de penser. Nous ne sommes pas conscients de nos pensées et nous les laissons dériver ou être attirés par l'une ou l'autre de ces inclinations. Cela ne veut pas dire que tout le monde a tout cela en lui. Certaines personnes sont simplement attirées par d'autres inclinations, mais nous devons regarder en nous-mêmes et voir, y a-t-il quelque chose de cela en moi? Est-ce que l'une ou l'autre de ces choses, ou toute autre chose que la Bible dit, est en moi? Comment purger cela? Que faisons-nous? Si nous trouvons l'une de ces pensées, l'une de ces attitudes en nous, que faites-vous? Comment s'en débarrasser? Allons à Colossiens, chapitre 3. Colossiens 3 et verset 5. Colossiens 3, 5 dit: Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, l'affection démesurée, la mauvaise concupiscence, et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les enfants de la désobéissance. Ce sont des choses que nous devons simplement arracher. Nous devons nous débarrasser de ces attitudes. Nous ne pouvons pas les laisser s'envenimer. Nous ne pouvons pas les laisser, dès que nous sommes conscients que tout cela est en nous, nous devons nous mettre au travail, mettre ces choses à mort, les tuer. En fait, faire la guerre en nous. Nous avons déjà entendu des choses, des messages dans le passé sur la façon dont il faut lutter. Vous luttez avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. La lutte peut être très difficile. C'est un travail difficile. On peut se fatiguer très vite en luttant, mais c'est quelque chose qu'il faut faire. Pierre a également quelque chose à dire à ce sujet. Allez au premier chapitre de Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissante à la vérité par l'Esprit, jusqu'à l'amour sincère des frères, veillez à vous aimer les uns les autres d'un cœur pur et avec ferveur. Nous nous purifions et nous nous purifions en allant dans la parole de Dieu et en y obéissant. Nous obéissons à Dieu. C'est ce que Pierre a dit en substance. Vous purifiez vos âmes en obéissante à la vérité. Comme je l'ai dit, c'est parfois très difficile. Il n'est pas facile de surmonter les habitudes, les mauvaises habitudes. Il n'est pas facile de surmonter certaines inclinations. Cela peut être très, très difficile. Mais une chose que nous devons faire, la façon dont nous sommes purs, c'est d'obéir à Dieu et de continuer à lui obéir. Nous cherchons à obéir à Dieu. C'est intéressant. L'une des choses qu'ils ont découvertes, c'est que les mineurs qui extrayaient le sel dans l'Himalaya, parce qu'ils se trouvaient dans cet environnement, avaient parfois des problèmes respiratoires, de l'asthme, tout cela, et qu'en continuant à être dans cet environnement où il y a du sel et où ils respirent le sel, toutes ces maladies disparaissaient. Ils n'avaient plus d'asthme. Ils n'avaient plus de problèmes respiratoires, plus de problèmes de sinus. Ils avaient plus d'énergie. En fait, le programme les désintoxiquait. Ils n'avaient aucune idée que cela allait être un avantage d'être embauché. Voici votre salaire, et au passage, vous allez être en bonne santé. Ils n'avaient aucune idée que cela en faisait partie, mais c'était le cas. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Je suppose que je ne suis pas salé parce que je ne suis pas parfait. Je ne suis pas pur. Je pêche. Je ne peux donc pas être du sel. Vous savez quoi? Je n'ai pas besoin d'être du sel. Je serai du poivre. L'origan, c'est bien. Mais vous savez quoi? J'ai deux choses à dire à ces gens. Premièrement, vous allez vous retrouver tout seul sur cette corniche, car je ne connais aucune écriture qui dise d'être comme l'origan ou comme le poivre, ou quoi que ce soit de ce genre. Deuxièmement, Dieu l'a compris lorsqu'il a fait cette déclaration. Lorsque Christ a fait cette déclaration, il comprenait que les êtres humains n'étaient pas parfaits. Il l'a compris, mais Dieu regarde toujours nos attitudes. Allons au chapitre 5 de Matthieu. Revenons à Matthieu 5, verset 48. Matthieu 5, 48 dit: Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est aux cieux est parfait. Nous savons que cela signifie devenir parfait. C'est un processus. Dieu a compris que lorsqu'il leur parlait, à ce moment-là, Il n'avait pas son Saint-Esprit, mais il leur a quand même dit que vous étiez le sel de la terre. C'est un processus. Nous nous purifions. Nous devenons propres. Et Dieu, tant qu'il voit que vous essayez, que vous cherchez à lui obéir, que vous cherchez à vous purifier pour lui, vous êtes pur. Il vous considère comme pur. Il vous considérera comme juste. Rappelez-vous ce qui est dit à propos d'Abraham. Abraham a cru en Dieu et cela lui a été compté comme une justice, c'est-à-dire une justification. Une fois de plus, la pureté est l'une des choses qui rendent le sel si précieux. La deuxième raison pour laquelle le sel est précieux, est l'usage que la plupart des gens en font, à savoir l'assaisonnement pour donner du goût. Le sel est en fait l'assaisonnement le plus populaire au monde. On peut améliorer le goût de presque tout en saupoudrant du sel. À mon avis, on peut même empirer les choses en les saupoudrant de sel, mais nous n'allons pas en parler maintenant. Passez au chapitre 6 du livre de Job. On peut améliorer presque tout en saupoudrant du sel. Et vous le savez bien. Essayez du pop-corn sans sel. Je n'y arrive pas. L'une des choses que je n'ai jamais comprises, c'est ma femme qui a dû me l'expliquer. Comprenez-moi bien, je veux faire attention à la manière dont je vais le formuler. J'allais dire, je suis un homme et je ne cuisine pas beaucoup, mais j'allais au magasin et je voyais du beurre non salé. Qu'est-ce que c'est? Quel est l'intérêt de ce beurre? Qui veut du beurre non salé? Je ne peux pas imaginer mettre du beurre non salé sur mon pop-corn, pas du tout. Il faut qu'il y ait du sel. Mais ma femme m'a expliqué, tu sais, quand tu cuisines, on te dit de mettre telle quantité de sel, mais tu ne sais pas combien de sel il y a dans le beurre, et oui, j'ai compris. D'accord, j'ai compris, mais tu y es déjà. Job chapitre 6. Job est très préoccupé par la nourriture sans sel. Verset 6. Le verset 6 de Job dit, « Peut-on manger sans sel ce qui n'est pas bon? Le blanc d'un œuf a-t-il du goût? Ce que mon âme n'a pas voulu toucher, c'est une viande triste. » Il est difficile de comprendre ce qu'il dit au verset 7, vu la façon dont il est formulé. « Les choses que mon âme refuse de toucher. » Je vais lire cela dans la New Living Translation pour vous donner une idée de ce qu'il dit. Il dit, « Mon appétit disparaît quand je le regarde. J'ai la nausée à l'idée de le manger. Et je me suis demandé s'il pouvait vraiment être aussi fort que cela. J'ai consulté d'autres traductions et elles avaient toutes leur propre version de la façon dont il a dit cela, qui est assez proche de cela. En d'autres termes, il mange le blanc d'un œuf. Job serait très déçu aujourd'hui. Dans notre société, nous avons des omelettes au blanc d'œuf. À quoi pense-t-il? Mais je suis d'accord avec eux. Je n'aime pas le blanc d'œuf. Je n'aime pas cela non plus. Je n'aime pas les œufs durs. Je le casse. Quand j'étais enfant, je l'ouvrais pour le voir. J'ai essayé une fois et c'est tout. Puis je l'ai ouvert et j'ai vu le petit jaune d'œuf à l'intérieur. Oh, oui, du sel, et puis je l'ai mangé, mais la partie blanche, je la donnais à ma sœur. Hé, Didi, tu veux cela? Je prendrai ton jaune d'œuf pour cela. Je suis désolé. Je montre ma nature humaine là, ce n'était pas bien. Je me souviens que quelqu'un cuisinait des macaronis sans gluten et sans produits laitiers. Je me suis dit, vraiment, pouvez-vous faire des macaronis sains comme cela? Vous pouvez faire cela? Ils l'ont fait et ils ont mis du fromage végétal, je suppose. Et ils ont utilisé du lait d'avoine pour remplacer le lait, puis ils l'ont goûté et c'est comme, c'est, non. Non, ce n'est pas bon. J'ai dit, Peut-être que si tu ajoutais du sel. Là, je suis un peu en retrait, je vise un demi-quart, peut-être que si vous mettiez du sel, ce serait meilleur. Ils ont mis du sel et je l'ai goûté, c'était bon. J'étais choqué. Ça a vraiment marché. Eh, c'est super. C'était meilleur. C'était appétissant. Passer au chapitre 4 du livre des Colossiens. En fait, on peut toujours dire que ce n'était pas des macaronis au fromage traditionnel, mais c'était vraiment bon. Le verset 6 de Colossiens 4 dit, que vos paroles soient toujours pleines de grâce et assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La grâce, assaisonnée de sel. Je crois que nous en avons déjà parlé, mais il s'agit de la manière dont vous parlez aux gens. C'est la façon dont vous traitez les gens. En fait, il s'agit plutôt de votre discours, c'est-à-dire de la façon dont vous parlez aux gens. C'est la façon dont vous le dites. Nous devrions être parmi les personnes les plus agréables à côtoyer sur Terre, comme le sel de la Terre. Lorsque les gens nous parlent, reflétons-nous la joie de vivre à la manière de Dieu? Sommes-nous heureux? Sommes-nous positifs? Sourions-nous lorsque nous disons ce que nous disons? C'est quelque chose qui manque réellement à ce monde. Les gens sont vraiment courts, brusques. Je suis gentil avec vous si vous êtes quelqu'un. Si vous n'êtes pas quelqu'un, je ne me soucie pas vraiment de la façon dont je vous parle. Puis-je obtenir quelque chose de vous? Avez-vous quelque chose dont j'ai besoin? Puis-je projeter ou prévoir que vous pourriez avoir quelque chose dont j'aurais besoin? C'est une raison égoïste qui explique souvent, pas toujours mais souvent, pourquoi les gens sont parfois gentils ou pourquoi ils parlent aux gens avec gentillesse. Mais pour nous qui sommes le sel de la terre, le peuple de Dieu, lorsque nous parlons aux gens, nous devrions toujours refléter cela. Cela signifie-t-il que chaque fois que nous parlons à quelqu'un, c'est toujours le soleil qui brille et que nous sommes toujours heureux? Chaque situation est positive. Non, il y a des moments où il faut dire la vérité aux gens, les corriger, leur donner des conseils qu'ils ne veulent parfois pas entendre. Une personne prépare un repas et il n'est pas bon, et nous ne sommes pas censés mentir. On se dit, j'espère qu'ils ne me demanderont pas. J'espère qu'ils ne me le demanderont pas. Comment c'était? Aucun sel ne serait, c'était horrible. S'il vous plaît, ne cuisinez plus jamais. Vous pourriez rendre votre spatule et tous vos outils là-bas et je mettrai toutes les casseroles sous clé, et ouf, à quoi pensiez-vous? Ce n'est pas du sel. Le sel, c'est, ce n'était pas très bon, mais il est possible que l'assaisonnement n'ait pas été bon, ou peut-être. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai jamais dit cela à ma femme. C'est une excellente cuisinière. Merveilleuse. Elle l'est. Il y a eu des moments où vous étiez dans le monde, où vous parliez aux gens, où vous travailliez et où vous deviez travailler avec les gens. Si vous leur parlez de manière brutale, sans grâce, avec du sel, vous avez maintenant un problème parce que cette personne est avec vous tout le temps. Elle peut ne pas être gentille. Elle peut être méchante à dessein, parce que vous avez été méchant une fois ou que vous n'avez pas fait attention à la façon dont vous avez dit quelque chose à quelqu'un cette fois-là. Pour certaines personnes, il suffit d'une seule fois. Tu sais quoi? Je viens de te catégoriser et tu n'es pas quelqu'un de gentil, donc je ne vais pas m'inquiéter d'être gentil avec toi dorénavant. Chaque fois que nous parlons aux gens et que nous traitons avec eux, nous devrions refléter la voix de Dieu, qui est la gentillesse. Nous pouvons même dire des choses difficiles à dire avec gentillesse. Il n'est pas nécessaire de perdre patience et de crier après eux ou de dire des choses désobligeantes. Cela nous rendrait extrêmement précieux aux yeux de Dieu. Être capable de traiter avec gentillesse et amour d'autres êtres humains qui sont des êtres de Dieu potentiel, Dieu le verrait et le considérerait comme extrêmement précieux. Une autre chose qui rend le sel extrêmement précieux, c'est que le sel est un conservateur, il conserve. Celle-ci m'a intéressé parce que, normalement, je suis la personne qui pose des questions et j'en ai beaucoup. Je pose des questions sur tout. Pendant longtemps, je n'ai jamais posé de questions, avant les réfrigérateurs, comment les gens conservaient-ils leur nourriture? On n'était pas toujours dans un climat froid, avec de la glace ou quoi que ce soit de ce genre, alors comment conservaient-ils leur nourriture? Les gens conservaient leur viande et leurs aliments avec du sel. Dans l'Antiquité, le sel pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les gens tuaient la viande, la préparaient ou en préparaient une partie. L'autre partie, c'est une couche de sel, ils prenaient la viande, la mettaient sur la couche de sel, puis ils prenaient une autre couche de sel et la mettaient sur la viande. Le sel absorbait l'humidité, l'eau et le liquide contenu dans la viande, ce qui favorisait le processus de pourrissement. Il ralentissait pratiquement le processus de pourrissement. Il ne l'a pas complètement arrêté, mais il l'a considérablement ralenti. Voilà ce qu'ils ont fait. Consultez le chapitre 1 du livre de Tite. Nous verrons ici une comparaison spirituelle. Le peuple de Dieu a été utilisé à travers le temps pour préserver sa parole, son mode de vie. Tite, chapitre 1 et verset 9. Il s'agit des qualifications d'un ancien, mais il est dit au verset 9, « Retenir fidèlement la parole qu'on lui a enseignée, afin de pouvoir, paragraphe une saine doctrine, exhorter et convaincre les incrédules. Tenir bon. » Garder ses doctrines comme on le lui a enseigné, comme on nous l'a enseigné à tous, vivre les doctrines de Dieu, vivre son mode de vie, garder les jours saints, garder les nouvelles lunes, tous les différents aspects du mode de vie de Dieu, c'est préserver le mode de vie de Dieu. Au fil du temps, les chrétiens et le peuple de Dieu ont continué à obéir à Dieu, en respectant non seulement ses lois et ses commandements, mais aussi ses traditions. Vous gardez les traditions et vous préservez ainsi le mode de vie de Dieu. Passez au chapitre 3 de la deuxième édition de Timothée. Il devrait se trouver quelques pages plus loin. 2 Timothée 3, 14. Mais persévérez dans les choses que vous avez apprises et dont vous avez été assurés, sachant de qui vous les avez apprises. Nous savons que nous sommes tous entrés dans l'Église. Nous avons tous prouvé qu'il s'agit de l'Église de Dieu. Il y a un apôtre vivant et il a appris d'un apôtre vivant et il nous a enseigné tout ce que Dieu veut que nous sachions. Il continue à nous enseigner ce que Dieu veut que nous sachions. Nous préservons le mode de vie de Dieu. Nous préservons tout ce que Dieu nous enseigne en gardant ces choses, en nous accrochant à la vérité, en croyant, en soutenant, en obéissant, en faisant tout cela. En faisant cela, nous préservons le mode de vie de Dieu. Cela préserve ses lois, cela préserve les traditions, cela préserve les jours saints. Si vous y réfléchissez bien, à un moment donné, il perdait. Il perdait beaucoup. Il n'observait pas les jours saints. Il célébrait la Pâque. Mais à part cela, il n'y avait pas de fête des tabernacles. C'est intéressant parce qu'après avoir vécu de cette façon, on se dit, qu'est-ce que l'Église serait sans la fête des tabernacles? Mais à un moment donné, il n'y en avait pas dans l'Église, vous savez. Mais Dieu, il forme ses leaders et ils peuvent enseigner l'Église et ensuite nous continuons quand nous gardons ces choses et nous préservons ces choses. Passez au 2e chapitre des Thessaloniciens. 2e Thessaloniciens, chapitre 2 et verset 15. C'est pourquoi, frères, demeurez fermes et retenez les traditions qui vous ont été enseignées, soit par la parole, soit par notre épître. Voilà qui confirme que c'est ainsi que Dieu a préservé sa parole. Dans les premiers temps de l'Église chrétienne, il y a eu des persécutions. Le saviez-vous? Je suis presque sûr que nous le savons, mais pour nous le rappeler, certains de ces chrétiens ont appris et mémorisé des chapitres entiers de différents livres de la Bible, puis ils ont été capables de les assembler. Ils étaient capables de parler et d'assembler les choses, de les assembler au fur et à mesure, car si vous étiez pris avec une Bible, vous pouviez être tué sur le champ. C'est ainsi qu'ils ont préservé la parole de Dieu. Je veux dire, est-ce que vous pensez parfois à cela, à la façon dont Dieu a préservé sa parole de cette manière? C'est incroyable. Une autre façon de voir cette préservation, et cela nous ramène au fait d'être le sel de la terre, c'est que nous préservons en fait le monde. Parce que nous sommes ici, Dieu n'a pas détruit ce monde et ne le détruira pas à l'avenir. En ce moment, Malachie 4, 5 et 6, où Dieu a dit qu'il allait faire venir Élie et qu'il allait tourner le cœur des enfants vers les pères et des pères vers les enfants. De peur qu'il ne vienne frapper la terre d'une destruction totale. Toujours dans Matthieu 24, au verset 21 et 22, il mentionne que ces jours seront abrégés à cause des élus. Car s'il n'abrégeait pas ces jours pendant la tribulation, aucune chair ne serait sauvée vivante. On peut voir cela d'une autre manière. Être le sel de la terre signifie que nous préservons cette terre et ce monde d'une destruction pure et simple. En conclusion, nous pouvons voir maintenant à quel point le sel a été et est précieux et pourquoi Dieu l'a choisi. Il y a encore d'autres qualités du sel que j'aurais pu évoquer, mais je n'ai pas eu le temps. Vous savez, je peux aller de l'avant et essayer. Non, vous voulez parler? D'accord, mais si nous continuons à nous purifier en obéissant à Dieu et en gardant le péché hors de notre vie, hors de notre cœur, si nous sommes capables d'ajouter de la saveur et de la valeur aux conversations, aux autres personnes, à la façon dont nous interagissons avec elles, et à la façon dont nous leur parlons, en rendant les choses plus agréables lorsque nous leur parlons, et si nous continuons à préserver le mode de vie de Dieu en continuant à garder les choses qui nous ont été enseignées, alors nous sommes vraiment le sel de la terre, et chacun d'entre nous est immensément précieux pour Dieu.